La fugue bouscule chaque année la vie de centaines d'adolescentes et d'adolescents au Québec. Désir de changement ou expression d'un mal-être, elle laisse les adultes entourant ces jeunes aux prises avec un sentiment d'impuissance, de solitude et parfois de honte. On l'associe instinctivement à des risques, mais elle est pourtant loin de se résumer au danger. Ce balado met en lumière ce qui pousse des jeunes à partir et ce que ça fait vivre à leur entourage. Il propose des réflexions pour mieux comprendre et intervenir. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Cynthia, Théo et Lolo. Chacun a fugué pour des raisons bien particulières. À leur côté, des intervenants portent un regard sensible sur ce qui amène des jeunes à fuguer. Ensemble, ils proposent des pistes de solutions.
Mais moi, à l'adolescence, je pense que ça a été rough, ça a été rushant sur beaucoup de points. Fait que, tu sais, j'étais arrivé à l'âge de 12 ans, puis déjà, j'avais envie de goûter à toutes les substances, puis à expérimenter tout ce qu'un adolescent a envie d'expérimenter à ce moment-là, tu sais. Puis moi, je pense que j'étais en recherche aussi d'indépendance puis d'autonomie. Puis qu'à ce moment-là, j'avais envie de prouver que j'étais déjà un adulte, puis que j'avais déjà envie, là, de mener ma vie comme ça me tentait. Qu'est-ce qui faisait à ce moment-là que j'avais tant besoin de partir de la maison? Je pense que c'était la recherche de consommation beaucoup, tu sais. Je pense que je sentais pas que je pouvais faire ça à la maison. Fait que j'allais le faire ailleurs.
À cause des petites situations-là, ça pouvait juste dégénérer tellement rapidement. Puis, fait que là, j'ai juste pris mes affaires, puis je suis parti. Qu'après l'épisode de l'hôpital, j'ai pas ressenti qu'elle voulait que je sois là, genre. Parce que ça allait tellement mal entre nous deux que j'ai jamais ressenti une seconde qu'elle voulait que je reste. Fait qu'alors, quand je suis parti cette soirée-là pour aller chez mon ami, dans ma tête, c'était « je m'en vais à quelque part où j'ai le droit de dormir », genre.
Moi, je suis une personne qui... pas vraiment dans l'affrontement. Je suis pas une personne qui va te confronter quoi que ce soit, mais par contre, si ça fait pour mon affaire puis que j'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus ou d'avoir de droit sur ma propre personne, ben je vais quitter. Je suis pas bien, puis je peux pas dire ce que j'ai à dire, puis je peux pas agir de la manière que je veux, donc je préfère quitter. Quand j'ai vu que c'était ça un centre, j'avais aucune idée dans quoi je venais d'atterrir. Tout était contrôlé, planifié. J'ai été vraiment choquée, ça a été dur.
Premièrement, il y a les besoins de base, mais les autres besoins des jeunes qui sont en fugue, c'est les besoins qui sont derrière la fugue, vraiment, et tout ça. Le principal que les jeunes nomment, c'est vraiment la liberté. Moi, c'est Jonathan Paradis. Je travaille à l'organisme communautaire En Marche 12-17 et je travaille tout particulièrement sur différents projets en concertation avec les centres jeunesse de Montréal. Donc, les jeunes sont dans des situations où ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et tout ça. Aucun jeune ne peut faire ça, mais en tout cas, eux autres, ils sont dans des situations où ils revendiquent plus de liberté. Donc, c'est une manière pour eux, la fugue, d'aller vivre ces libertés-là puis d'aller explorer un petit peu à travers ces libertés-là qui ils sont, à quoi ils aspirent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, des choses comme ça.
Je pense que j'ai jamais nommé ça comme étant une fugue parce que il y avait ce contact-là via le téléphone, c'était est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas. Jamais que j'ai pensé que c'était une fugue parce que moi je me sentais en sécurité, ou je me sentais même bien parce que je sentais à ce moment-là que j'avais une autonomie, je faisais ce que je voulais. Je continuais aussi à aller à l'école, tu sais, ça c'est un point quand même important dans le sens que là s'il y avait pas d'école non plus, si mettons je manquais d'école pendant une semaine, ben là je savais que ma mère allait être au courant et là que il allait peut-être se passer quelque chose à ce moment-là. Alors moi je gardais le filet avec l'école, je gardais le filet avec ma mère. Ce qui faisait en sorte que tout le reste m'appartenait.
C'est fuir quelque chose ou aller vers quelque chose et de trouver le sens à cette fugue-là, c'est pas évident parce que il y a des jeunes qui vont fuguer, qui vont devenir plus des fugueurs chroniques dont on n'a pas accès à eux, donc c'est plus difficile de comprendre le sens de leur fugue. Mais quand on regarde le parcours, on peut émettre l'hypothèse qu'il y a un mal-être en quelque part, ils sont pas bien nulle part. C'est des jeunes qui se mettent plus à risque. Moi, mon nom, c'est Vicky Etier. Je suis éducatrice d'un premier temps, mais ma fonction présentement, c'est responsable de site pour une structure de soutien au niveau de la fugue, sexo et toxico aussi, sur un centre d'accueil qui s'appelle le Mont-Saint-Antoine. Il y a d'autres jeunes qui vont fuguer occasionnellement, qui ont besoin d'une prise d'air, qui ne peuvent pas avoir accès. Des fois, ils ne savent pas comment demander du soutien ou de l'aide. Donc, ils ont besoin de s'évader un peu, d'expérimenter. Il ne faut pas oublier que c'est l'adolescence aussi, donc l'âge d'expérimentation. Ils veulent aller voir ce qui se passe ailleurs. Des fois, ils ont le goût de vivre ce que les autres jeunes ont, selon leur perception à eux. Puis il y en a d'autres, des fois, c'est, ben il y a un party, puis ils peuvent pas y aller, fait qu'ils ont le goût d'y aller, puis ils vont. Ils sont pas nécessairement ceux-là différents de les enfants qui ne sont pas placés, qui respectent pas toujours les règles. Mais la fugue, elle exprime quelque chose que les jeunes vivent. Donc, il faut s'y attarder, puis il faut prendre le temps de la comprendre, puis d'écouter, parce que c'est un message que les jeunes nous lancent.
J'ai eu des problèmes avec mon père quand on était jeune. Et à un certain point, j'ai arrêté de le voir. Je dirais vers mes 13 ans, quand j'ai pu comme vraiment mettre mon pied à terre pour faire comme, OK, je veux plus voir cette personne. Puis genre, ma mère était d'accord que j'habite juste avec elle. Et tranquillement, pas vite, ça a commencé à vraiment moins bien se passer avec ma mère. Je pense que des deux côtés, notre vie allait mal. Dans le sens que... moi, je passais à travers des grosses peines d'amour, des dépressions, d'autres problèmes. Puis elle vivait des moments plus difficiles aussi de son côté, qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment discuter, genre. Parce que c'est quelqu'un de très, très réservé par rapport à ça. Il y a certains points qui ont fait en sorte que notre relation est vraiment partie en couille, comme par rapport, par exemple, le fait que j'avais commencé à fumer du pot. Avant, c'était la personne la plus proche de moi. Puis à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, notre relation a complètement changé. Pour elle, c'est un de ses plus gros démons. Elle a toujours été extrêmement effrayée par ça. Puis elle a toujours comme pensé que tu devenais schizophrène si tu fumes une puff de pot. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a comme vraiment une grosse distance. Puis avec les années, ça s'est juste empiré. Les deux, on était complètement à bout l'un de l'autre. Puis... un certain point, elle m'a mis dehors. Pour une raison quelconque, je me suis blessé quand même gravement au doigt. Bref, je suis allé à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, j'ai pété une coche. Là. J'étais genre... ça faisait 2 semaines, j'avais fret, j'allais faim, j'allais à l'école pareil, genre. Puis ça, c'était juste comme la goutte de trop. Là. Tout ce que je voulais, c'était juste comme... je sais pas, une porte de sortie, genre un peu de stabilité, whatever. N'importe quoi, tu sais. J'avais même pas d'argent, fait que je volais de la nourriture. Puis là, finalement, je me suis enfui de l'hôpital. Puis là, ma mère s'est fait appeler par l'hôpital. Elle m'a rappelé, puis elle m'a texté. Puis elle m'a dit, ah, est-ce que t'aimerais ça qu'on parle, genre? Alors, on peut se meet où tu veux, on peut se voir. Puis là, j'étais comme assez content, genre. C'était un peu... I guess, avec du recul, que c'était le résultat que je cherchais dans cette crise-là, genre. Puis, c'était pas de l'attention, mais genre juste comme un certain mini-réconfort de comme, tout est correct, genre, tu sais, I guess. Là, moi, j'ai dit que j'étais à côté du McDo sur Beaubien, puis elle était comme, OK, bon, on va se meet, là. Fait que là, je l'attends au McDo avec mon ami. Puis là, il y a 5 policiers qui arrivent, qui m'entourent dans le McDo, pis sont comme « Ah, c'est-tu toi? Oui, OK, viens-t'en, on te suit. » Puis là, je vais à l'extérieur, il y a ma mère qui attend, genre. Puis là, ils m'amènent dans le char. Puis j'ai pas parlé, on s'est pas parlé, on s'est juste regardé, genre. En général, elle pensait que j'étais juste tout le temps en psychose. alors que je vivais de la colère. Puis je pense que là, elle avait peur pour sa vie, puis elle pensait que je voulais, genre, l'attaquer ou... C'est une interprétation, là, on en a brièvement parlé. Je pense pas qu'elle voulait me faire du mal, genre, je pense pas que c'était une guerre, vraiment, qu'on menait avec du recul. Moi, je l'ai pris un peu comme ça, mais je pense juste qu'elle aussi vivait de la panique totale, dans le sens autant, voire plus que moi. Puis que c'est comme ça qu'elle a réagi sur le moment. puis qu'au final, ça s'est avéré être la pire chose qu'elle pouvait faire, mais c'est quand même genre compréhensible, d'une certaine manière.
Je pense que certaines des aspirations qu'ils ont, des besoins auxquels ils veulent répondre, fait partie un petit peu d'une adolescence normale auxquelles les autres jeunes ont accès. Pour ces jeunes-là, pour différentes raisons qui sont très très particulières à chacun, ils n'ont pas accès à ces expériences-là et donc ils doivent le vivre à travers la fugue. Ça, c'est le grand défi, je pense, autant pour les parents que pour les intervenants des différents milieux. En fait, c'est d'offrir, je pense, aux jeunes des espaces où ils peuvent la vivre, cette liberté-là. Des fois, c'est simplement des jeunes qui ont envie de faire des activités puis que là, ils trouvent leur vie un petit peu plate et tout ça, qui n'ont pas accès à grand-chose, ben, ça serait simplement en fait de les accompagner pour les apprendre à se découvrir puis trouver des activités en fait qui peuvent les intéresser puis dans lesquelles ils peuvent s'investir à plus long terme.
Les raisons pour lesquelles on fugue, ça peut toujours se regrouper en deux grandes catégories. Soit tu fugues d'un milieu où t'es pas bien, ou soit tu fugues d'un milieu pour aller vers autre chose, pour aller voir tes amis, pour aller dans un party. Je m'appelle Sophie Couture, je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. J'ai commencé à m'intéresser à la question de la fugue en 2014-2015 pour essayer de comprendre un peu cette propension-là qu'ont certains jeunes à prendre des risques, essayer de comprendre comment qu'on peut prédire la récurrence de fugue pour éventuellement essayer de proposer des interventions qui soient plus adaptées aux jeunes. C'est sûr que là, le fait d'être placé en centre de réadaptation, tous les jeunes vont mentionner à un moment ou à un autre qu'ils ont fugué parce que, principalement, ils étaient insatisfaits de leur placement. Ça va survenir, par exemple, si un jeune a un refus, là, il se fait dire qu'il peut pas finalement sortir aller voir ses amis comme prévu, mais le jeune va se dire « ben moi, je sors pareil ». Il va pas s'empêcher de le faire. Donc, souvent, c'est des situations comme ça qui vont les amener à fuguer. Donc, le contexte de placement. Il y a des changements. Ils connaissent pas bien qu'est-ce qui leur arrive. Il y a des frustrations. Donc, c'est souvent les choses qui ressortent. Tous les jeunes, dans leur comportement, ils sont toujours avec d'autres jeunes de leur âge. C'est normal. C'est des adolescents. Les adolescents, ils ont besoin d'être avec leurs amis. C'est les personnes les plus centrales dans leur vie. S'ils peuvent pas avoir accès à ces personnes-là, c'est faut quand même trouver une façon d'aller combler ce besoin-là. Puis on a remarqué que ceux qui fuguaient moins longtemps, moins souvent, c'est des jeunes qui se distinguaient pas tellement au niveau de leur comportement à risque, mais ce qui les distinguait, c'était leur besoin d'avoir des sensations fortes. Un autre groupe de fugueurs qu'on appelait nos fugueurs indépendants, c'est des fugueurs qui fuguaient quand même souvent, puis qui fuguaient à peu près une semaine. Donc, c'était quand même d'une longue durée. Puis eux, ce qui les distinguait, c'est qu'ils revenaient toujours seuls en centre de réadaptation. Ils manifestaient davantage de symptômes, de présence de symptômes d'anxiété et de dépression.
Juste le fait d'avoir senti que j'avais pas de famille pendant l'adolescence. Puis, tu sais, genre les seules personnes que j'avais ou que je considérais que j'avais, c'était mes amis proches. Puis c'était eux avec qui, genre, je vivais toute ma vie. Eux, c'était tous les rôles que j'avais besoin parce que c'est tout ce que j'avais dans ce temps-là, genre. Je me suis beaucoup senti rejeté, comme si je faisais pas ce qu'ils voulaient, j'avais pas le parcours, genre, qu'il fallait, tu sais, puis ça faisait de moi un peu un raté, en fait. Tu sais, genre, que comme moi, je fume un peu de pot, genre, j'allais finir dans le crack, puis dans la rue, puis genre, comme si j'étais voué à l'échec. On me fait beaucoup sentir que j'étais voué à l'échec, puis à un certain point, que j'étais pas sauvable. Fait que quand ça s'est mis à mal se passer pour moi, pour d'autres raisons, puisque l'adolescence, c'est juste fucking intense, tout court, j'ai pas eu ce support-là que j'aurais aimé avoir. Puis que dans ma crise, c'est juste ça que je voulais juste qu'on me laisse tranquille, puis que... Ou qu'on me supporte, genre. Qu'on me dise « Hey, ça va bien aller. » Pas comme... Ah, pourquoi t'as pas fait ça? T'es pas capable de rien faire, blablabla, tu sais. Juste comme, hein, comment ça va? Je sens que t'es down, genre, que tu vas pas bien. C'est juste ça que je voulais au fond. Puis j'ai l'impression que Elle a même pas pu le voir une seconde, genre l'apercevoir que j'allais pas bien.
Il y a des enfants. Oh mon doux Seigneur, tu dis, ils ont vécu des choses là. Pff, je voudrais tellement avoir une chaise berçante, juste bercer certains enfants. Et j'aurais le goût de vous dire que des fois, j'aurais voulu bercer des parents parce qu'il y en aurait autant de besoins que des enfants. Les jeunes, ils vivent de la tristesse. Moi, je vois plus de tristesse que de colère parce que ils ont l'impression que c'est eux qui sont placés, puis que souvent les parents ont pas de choses à compléter ou à remplir. C'est tout ça qui est pour les enfants peut-être des fois difficile à saisir. Des fois, on tente d'aider les parents, comment on pourrait les aider à travailler, que ce soit au niveau de leur gestion de colère, leur gestion d'émotions, gestion de stress. Les jeunes ont ça dans les unités, il y a beaucoup de programmes. Est-ce que les parents reçoivent le même offre de service? Je me questionne. Je crois que ça serait à développer davantage. Est-ce qu'ils viendraient? Je sais pas. Mais ça serait important.
Le cycle de la fugue, il y en a aussi un pour les parents, qui est grosso modo le même que pour les jeunes, mais il y a des étapes qui sont inversées. Donc, les jeunes, eux, doivent vivre le moment de dilemme et de réflexion pour après se préparer à passer à l'action. Souvent, ce qu'on voit chez les parents, c'est qu'ils vont passer à l'action directement, entrer dans la voiture, chercher leur jeune au centre-ville de Montréal, des choses comme ça, et se dire qu'après, ils vont pouvoir réfléchir avec le jeune aux solutions et tout ça. Et donc, le cycle de la fugue est comme inversé à ce niveau-là, ce qui fait en sorte que quand les parents et les jeunes veulent se parler, parfois, ils sont pas sur la même longueur d'onde à cause de ce décalage-là. C'est sûr qu'une situation de fugue, c'est quelque chose de pas anodin, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc, c'est normal que les parents se sentent un peu démunis et ne savent pas quoi faire à ce moment-là, qu'ils manquent d'outils. C'est un peu à ça que servent des organismes communautaires comme En Marge, où on offre des services spécialement développés pour accompagner ces parents-là dans ce qu'ils vivent.
Je dirais que peu importe qu'est-ce que tu as envie que ton jeune soit, devienne, whatever, il va faire ce qu'il veut, puis il va vivre ce qu'il a à vivre. La seule chose qu'un parent peut vraiment faire là-dedans, c'est comment on va l'accompagner dans son parcours.
Le défi des organismes communautaires qui accueillent des jeunes en fugue est de les encourager à reprendre eux-mêmes contact avec leur famille ou avec le centre d'accueil qu'ils ont quitté, pour établir un dialogue et amorcer une réflexion sur les solutions.
On ne cache pas les jeunes. Et ça, je sais que pour certains parents, c'est très difficile à comprendre le fonctionnement. Plusieurs parents disent « Oui, mais pourquoi vous appelez pas directement les policiers si vous savez que mon jeune ou ma jeune est chez vous? Ce serait plus simple, ce serait plus sécuritaire. » Alors que nous, l'objectif, c'est que ce jeune-là ou cette jeune-là ait envie de revenir en marge. Parce que s'il a fugué ou si elle a fugué une première fois, il est fort à parier que ce jeune ou cette jeune-là va refuguer par la suite. Et si nous, notre seule façon de faire est d'appeler les policiers pour remettre ce jeune-là en sécurité, ben il reviendra pas fréquenter l'organisme, alors que nous, on veut que ce jeune-là continue de pouvoir utiliser l'organisme de façon quand il a besoin. Je m'appelle Anne Charpentier, je suis coordonnatrice de l'intervention pour l'organisme En Marge 12-17 depuis bientôt 12 ans. Le parent sera toujours averti et le parent peut téléphoner à n'importe quel moment du jour, du soir et de la nuit aussi pour demander est-ce qu'on a vu l'enfant, est-ce qu'on a des nouvelles. Et tant que le jeune est mineur, nous, on travaille beaucoup avec la transparence. Donc, autant ce sera nommé aux jeunes, autant ce sera nommé aux parents que si on a des téléphones ou on va être très transparent puis on va nommer. Même un policier nous appellerait pour nous demander si un jeune ou une jeune est là. On va répondre par la positive si le jeune est là. Le parent pourrait aussi dire « je m'en viens chercher le jeune ». Nous, ce qu'on va essayer de travailler avec le parent à ce moment-là, c'est de dire « ben En ce moment, il est en sécurité, il est avec des intervenants et on va tout faire pour que, justement, ce jeune ou cette jeune-là puisse être en réflexion pour faire les bons choix pour lui ou pour elle.
Ce passage-là au centre jeunesse, puis dans cette situation-là avec ma famille, m'a même donné envie d'aller en intervention ou en travail social, ou tu sais, juste parce que, avec du recul, je suis comme hostie que ça aurait pu mieux se passer. S'il y avait comme juste une troisième personne dans cette relation-là avec ma mère, qui aurait pu juste être là pour faire comme « Hey, calmez-vous. » Genre, ou juste comme une espèce de... C'est ça, une troisième personne qui a du recul puis qui aurait pu faire comme... Juste poser des questions pour faire réfléchir. Tu as une espèce de troisième personne stable qui va genre naturellement restabiliser le chaos, je sais pas. Ça aurait pu être un travailleur social, ça aurait pu être... je sais pas, moi, un ami de la famille, n'importe qui. Bon, au final, ce que j'avais besoin, c'était vraiment du support.
Aucun projet fonctionnait. Donc, quand je suis en fugue, j'ai appelé mes avocats, j'ai appelé ma mère. Il y avait une date de cours qui était déjà stédulée pour la fin de l'évaluation du 3 mois. On avait une extension. Et j'ai appelé tout le monde pour leur dire que ça serait bien qu'ils soient présents parce que j'allais me présenter même si j'étais en fugue. J'essayais de trouver et d'expliquer que mes 18 ans approchaient bientôt et que j'avais peur. Donc, j'essayais de leur proposer de me trouver une solution pour mon futur. J'étais à bout, j'étais épuisée, puis j'avais envie qu'on m'entende. Puis je me suis dit, ben là, si je me défends pas, ben il y a personne qui va le faire à ma place. Donc quand je suis arrivée devant le juge, je me suis levée puis j'ai dit que j'aimerais ça parler et expliquer que ça me faisait peur. Mais il m'a écouté jusqu'au bout. Quand je lui ai proposé d'aller en marge, au moins pour avoir un court terme avant mes 18 ans pour pouvoir toucher à la vie puis vivre avec les gens dans la communauté, ben il a trouvé ça très intéressant. Il y avait la travailleuse de rue d'En Marche qui était présente à la cour. Elle a pas promis au juge que ça allait fonctionner, mais elle a dit que ne pas essayer, c'était pas une option non plus qui pouvait être envisagée, que ça pouvait vraiment bien fonctionner. Donc, jusqu'à 18 ans, je serais pas dans la rue. Le juge m'a laissé sortir. Il m'a donné gain de cause. Il m'a souhaité une bonne chance puis que c'était des vraiment beaux projets pour la suite.
Pendant son placement, Cynthia rencontre une première travailleuse sociale avec qui le lien se crée difficilement. Quelque temps plus tard, alors qu'elle est en démarche avec un organisme communautaire pour trouver une alternative à ses fugues récurrentes, une nouvelle travailleuse sociale entre dans son parcours.
C'était une TS, une perle rare. Tu sais, je me rappelle encore de son nom, de sa personne, puis je me dis, elle m'a aidée vraiment comme en croyant en moi puis en me laissant comme vivre. Elle était tellement contente du résultat. Elle avait vraiment hâte de travailler avec moi sur mon projet de vie. Elle est allée chercher, dans le fond, toutes les ressources nécessaires pour que je puisse y arriver aussi par rapport à des meubles et tout. Elle m'a sorti des subventions des centres jeunesse pour m'aider à avoir des biens. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'étais en fugue, là, mais j'avais rien, là, j'avais absolument rien. Ça a été un magnifique tremplin pour ma réussite, dans le fond. Tout le monde peut s'en sortir, puis tout le monde peut avoir du soutien, puis peut être une bonne personne, c'est juste qu'il faut y croire.
Retrouve-moi où l'on s'égare est un balado produit et réalisé dans le cadre du projet de refonte du site jeuneenfugue.ca par le collectif POM pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Consultez le site web pour le détail des ressources dédiées aux fugueurs et à leur entourage. Dans le troisième et dernier épisode, parents et intervenants partagent ce qui peut prévenir la fugue, mais aussi ce qui peut permettre à celles et ceux qui font ce choix de ne pas s'y abîmer. Recherche, réalisation et montage, Sophie Mangado et Chloé Charbonnier. Musique et conception sonore, Blanche Baillargeon. Prise de son, conception sonore et mixage, Jérémy Roy. Narration, Julie Hamelin.